les matins débute avec le journal de Catherine Dutoux. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La manifestation avait été interdite par le préfet de police, mais plus de 20 000 personnes se sont rassemblées hier soir autour du palais de justice de Paris. Des jeunes surtout qui ont répondu à l'appel lancé par la famille d'Adama Traoré, qui estime que le jeune homme mort est mort asphyxié par trois gendarmes en 2016.
La mort de George Floyd aux États-Unis dans toutes les têtes des manifestants à Paris. La vague de contestation aux États-Unis ne connaît pas de répit.
Et les activistes des années 60, ceux qui ont combattu aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques, voit dans les manifestations actuelles un prolongement de leur combat. Mémoire qui se perpétue notamment à Washington. Nous serons sur place dans ce journal. Et puis nous irons en Italie à l'heure de la réouverture de ses frontières pour sauver notamment la saison touristique.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour. On a beaucoup parlé de Donald Trump, mais il faudrait également s'intéresser à Joe Biden. Quelle gauche incarne-t-il dans la présidentielle américaine? On posera la question à Martin Quincé, directeur adjoint du German Marshall Fund.
Ils ont profité des manifestations aux États-Unis contre les violences policières pour faire de nouveau entendre leur cause. Les proches d'Adama Traoré, ce jeune homme mort après son interpellation dans le Val-d'Oise en 2016, ont réussi à rassembler hier soir près de 20 000 personnes aux abords du nouveau palais de justice à Paris, et ce, malgré l'interdiction de manifester prononcée par le préfet de police. De nombreux jeunes étaient présents, ils réclament justice alors que les expertises se suivent et se contredisent, dédouanant ou accablant tour à tour les gens d'armes qui ont interpellé Adama Traoré en 2016. Le reportage d'Ariane Grissel.
Ce sont surtout des jeunes qui sont là de toutes origines, unis par un slogan. Assa Traoré, la sœur du jeune homme, prend la parole au début du rassemblement.
On parle beaucoup des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis a malheureusement mis de la lumière sur ce qui se passe en France. Adama a pris le poids de trois gendarmes. George Floyd a pris le poids de trois policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots, je n'arrive plus à respirer.
Des personnalités comme le réalisateur Lajli ou la chanteuse Camélia Jordana sont là aussi, au cœur de cette foule compacte où certains brandissent des pancartes.
Alors, il y a marqué « No justice, no peace » et de l'autre côté, il y a marqué « Black Lives Matter ». Alors, je pense que je suis là pour les mêmes raisons que tout le monde, parce qu'on en a assez et parce que je suis noire. L'autre jour, j'étais dans le métro, j'ai oublié de mettre mon masque. Quand je me suis fait contrôler, j'ai eu vraiment une montée de tension. Alors qu'à côté de moi, il y avait des jeunes blancs qui n'avaient même pas de masque du tout et qui étaient super détendus. Je sais bien que c'est ma façon de réagir qui fait que j'ai eu peur. C'est pas de leur faute, c'est à eux, s'ils n'ont pas peur, mais c'est juste pas normal.
Je suis venu parce que je me sens hyper concerné par tout ça. Par rapport à ma couleur de peau, par rapport à la façon de m'habiller directement, je suis contrôlé.
On n'est pas là pour dire anti-keuf, on est juste là pour dire anti-racisme. Je suis turque et africaine, donc je me sens complètement concernée. J'ai été victime très rarement. Que je me sens concernée ou pas, je me dois d'être là.
Des rassemblements similaires ont également eu lieu hier à Lille, Lyon ou Marseille.
Et des heurts ont émaillé la fin de la manifestation à Paris, des feux allumés autour du palais de justice, des projectiles envoyés vers les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Le calme est revenu vers 23h hier soir. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé d'ailleurs ces incidents hier en rappelant que la violence n'avait pas sa place en démocratie. Dans ce contexte, le défenseur des droits Jacques Toubon vient d'achever un rapport accablant sur des policiers du 12e arrondissement de Paris accusés de violences discriminatoires durant plusieurs années. Succession de contrôles, de palpations, de fouilles, de conduites au commissariat en dehors du cadre légal, estime Jacques Toubon. Il demande encore à l'État de se justifier. Les violences policières encore source de nouvelles manifestations, cette fois aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de New York, Philadelphie, Atlanta, Houston ou Los Angeles, alors que le Pentagone annonce avoir déplacé 1600 soldats dans la région de Washington. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre, accuse Donald Trump d'avoir transformé le pays en un champ de bataille miné par de vieilles rancunes et de nouvelles peurs. 8 jours donc après la mort de George Floyd tué par un policier blanc à Minneapolis, la période actuelle rappelle à certains activistes les années 60 et le combat pour les droits civiques. La mémoire de Martin Luther King et de milliers d'anonymes toujours vives dans ce restaurant par exemple de Washington, le Ben's Chili Bowl, au lieu de la communauté noire américaine où s'est rendu Grégory Phillips.
Ben's Chili Bowl est grâce à ses hot dogs, sauce chili, une institution de U Street, l'un des principaux quartiers afro-américains de Washington. À l'intérieur, l'odeur des saucisses, la musique du jukebox et au mur les photos des personnalités venues déjeuner ou dîner ici, de Martin Luther King à Barack Obama. C'est cette dame, à l'allure un peu frêle, qui règne sur les lieux depuis 1958.
Je m'appelle Virginia Ali et quand je réfléchis à ce qui se passe aujourd'hui, je constate que nos enfants se battent pour les mêmes droits humains et fondamentaux que nous il y a 60 ans. Cela m'attriste profondément. J'ai 86 ans maintenant. Je me souviens avoir été assise ici chez Ben Chili Bowles avec Martin Luther King et l'avoir écouté avec attention partager son rêve. Je peux seulement prier pour qu'un changement positif survienne de mon vivant.
En avril 68, quand Martin Luther King est assassiné à Memphis, Washington s'embrase, 4 jours d'émeute, 13 morts, 6000 arrestations, et Ben Chili Bowles est l'un des seuls établissements du quartier à ne pas être vandalisé, car il sert tout le monde, les pompiers, les policiers et les émeutiers. 52 ans plus tard, la capitale fédérale américaine se retrouve à nouveau sous couvre-feu. Les commerces et restaurants ont posé des panneaux de bois sur leurs vitrines dans la crainte de nouvelles nuits de violence. Mais Ben Chili Bowles continue à vendre ses hot dogs. L'endroit est un lieu de rassemblement et de mémoire pour les Afro-Américains qui savent que le combat pour l'égalité n'est pas encore terminé.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et toujours aux États-Unis, 60 000 personnes ont manifesté hier à Houston, au Texas, là où sera enterré George Floyd, cet Américain noir, je le rappelle, asphyxié la semaine dernière par un policier blanc à Houston, dans les rues. On pouvait voir certains manifestants posant parfois un genou à terre. Les États-Unis, genou à terre, un symbole contre la discrimination raciale et les violences policières. C'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. Et les États-Unis peuvent-ils dépasser le racisme enraciné? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dès 18h20 ce soir sur France Culture dans le temps du débat.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la pandémie du coronavirus se met en place aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Le bureau sera désigné aujourd'hui donc avant d'entamer les premières auditions ces prochains jours dans la foulée de la mission d'information menée jusqu'ici par le marcheur Richard Ferrand. La nouvelle commission d'enquête devrait durer 6 mois. L'objectif, tirer les leçons de la crise. L'opposition affiche ses ambitions avec le député LR Éric Ciotti, pressenti au poste de rapporteur. On y revient dans le journal de 7h30. De son côté, le Conseil d'État examine ce matin le recours déposé en référé par la CGT du Centre hospitalier régional de Lille. Le syndicat demande à la plus haute juridiction administrative française d'obliger le gouvernement à distribuer davantage de masques FFP2 aux soignants pour les protéger du coronavirus. Il demande également à réquisitionner au besoin les stocks détenus par les entreprises. Les précisions d'Aurélie Kiefer.
Parmi une trentaine de témoignages, celui de cette aide-soignante. Elle a dû porter le même masque chirurgical 8 heures d'affilée, le double de la durée autorisée, alors qu'elle se trouvait à moins d'un mètre d'un patient présentant de nombreux symptômes évocateurs du coronavirus. Seuls les services spécifiquement dédiés aux patients Covid ont été équipés de masques FFP2 plus protecteurs. Les soignants s'y étaient un temps résignés, se disant qu'il fallait bien gérer la pénurie, mais ils ont ensuite appris que des entreprises avaient pu se procurer des dizaines de milliers de masques FFP2 pour préparer la reprise de leur activité. Isabelle Bossement, militante à la CGT du CHU de Lille, est très en colère.
Le problème, si vous voulez, c'est qu'en faisant le choix de ne pas protéger au maximum la population hospitalière, évidemment, c'est un véritable scandale pour les travailleurs et les agents de l'hôpital. Mais c'est aussi un véritable scandale parce qu'on prend aussi le risque de contaminer des gens particulièrement fragiles. On travaille à l'hôpital, donc on peut l'attraper, mais surtout, on peut le diffuser. Donc oui, il y a beaucoup de colère et il y a une espèce de déni qui est catastrophique, parce que si on reste dans ce déni des manquements qu'il y a eu, ça veut dire qu'on ne cherchera jamais non plus les solutions pour que ça ne se reproduise plus. On ne peut pas être satisfait de ce qui s'est passé. Et si on ne fait pas ça, ça veut dire que peut-être l'hiver prochain, on sera à nouveau confronté à un virus et on risque de se retrouver dans la reproduction des mêmes graves dysfonctionnements.
Le ministère de la Santé a reconnu des tensions d'approvisionnement en masques FFP2, mais pas de pénurie. Quant à la direction du CHU de Lille, elle ne se sent pas visée par l'action de la CGT. Elle estime avoir fait les efforts nécessaires en suivant les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière.
Direction l'Italie à présent, puisque le pays rouvre ses frontières, celles de l'espace Schengen, mais aussi interrégionale, libre circulation des Italiens dans la péninsule et des touristes étrangers également. Mais le traçage reste possible, Bruce de Galzin.
Il n'y aura aucune obligation, mais les régions qui craignent une éventuelle contagion pourront demander aux visiteurs et touristes de remplir une déclaration, nom, prénom, provenance et éventuel contact avec le coronavirus. Des informations données volontairement donc et qui seront gardées 14 jours. Mais toutes les régions n'ont pas les mêmes inquiétudes et ne reçoivent pas autant de touristes. À Rome par exemple, dans les aéroports et les gares, des caméras thermiques vérifieront la température de chacun. En cas de fièvre au-delà de 37,5, un test sera effectué et s'il est positif, le visiteur pourra être mis en quarantaine. Toutes les régions doivent se doter de centres pour les accueillir. En Sicile, une application facultative sera proposée aux visiteurs qui bénéficieront alors de la nouvelle unité sanitaire pour les touristes. La Sardaigne voulait mettre en place un passeport immunitaire, mais cela a été jugé anticonstitutionnel. Elle a décidé d'inciter les touristes à faire un test avant d'arriver. Auquel cas, ils auront droit à un bon vacances à dépenser uniquement sur l'île.
Et à Vintimille, à la frontière franco-italienne, si les commerçants sont prêts à accueillir les touristes français, essentiels pour l'économie locale, les habitants, eux, sont plus circonspects, Sophie Delpont.
À la terrasse de son bar, Benito sert ses clients. La réouverture de la frontière avec la France, il l'attendait avec beaucoup d'impatience.
Parler, sourire et vivre. Vivre, c'est important. Beaucoup de courage et la vie se repart.
Mais il précise que la frontière est loin d'être hermétique.
Vous êtes passé peut-être dans l'autoroute. Et c'est ça, tout le monde est passé dans l'autoroute. C'est comme ça.
Benito rappelle à l'ordre deux Français qui ne portaient pas de masque. À une table voisine, Giorgio s'inquiète du manque de contrôle et du manque de tests Covid effectués.
Vous avez fait, vous, le test ? En France, vous l'avez fait ? Parce qu'ici, moi, je n'ai pas pu le faire. Ce sont des choses graves.
Jada, 26 ans, boit une bière avec deux amis. Elle est réceptionniste d'un camping qui travaille en majorité avec des touristes étrangers.
J'espère qu'ils vont revenir bientôt. Il faut que l'activité reparte parce qu'ici, la ville vit du tourisme. On vous attend.
Elle trinque avec l'espoir de première réservation à partir d'aujourd'hui avec la réouverture des frontières.
Sophie Delpont à la frontière franco-italienne pour France Culture. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage d'instaurer des ponts aériens avec certains pays faiblement affectés par la Covid-19 et ce pour éviter à de nombreux voyageurs d'observer la quarantaine à leur arrivée sur le sol britannique. Une quarantaine redoutée par les professionnels du tourisme. Et puis en France, les déplacements par transport aérien entre la Corse et le continent ne sont plus limités, annonce au journal officiel ce matin. Le temps de ce mercredi 3 juin, plus instable qu'hier, avec des orages qui vont gagner une grande partie de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 24 et 28 degrés du nord au sud.